Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Et nous allons passer à la lecture des textes sur lesquels reposeront la prédication, et la prédication reposera sur le livre de Jonas. Jonas, chapitre 1, versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alors Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua avec les gens pour aller à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Puis au chapitre 2, les versets 1 à 2. L'Éternel fit intervenir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas demeura dans les entrailles du poisson 3 jours et 3 nuits. Jonas, dans les entrailles du poisson, pria son Dieu. Le chapitre 3, les versets 1 à 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je te dis. » Alors Jonas se leva, il alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était devant Dieu une grande ville de 3 jours de marche. Et enfin le chapitre 4, versets 1 à 2. Cela donc fut très mal pris par Jonas, qui se fâcha. Il pria l'Éternel et dit « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays ? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant Tarsis, car je savais que tu es un Dieu qui fait grâce et qui est compatissant, lent à la colère et riche en bienveillance, et qui regrette le mal. » Et puis deux textes encore vont être utilisés qui font écho. Le premier, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 14, les versets 25 à 27. Il s'agit du roi Jéroboam, il rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Car l'Éternel avait vu la très cruelle humiliation d'Israël. Il n'y avait plus personne qu'on retienne et plus personne qu'on relâche. Nul ne venait au secours d'Israël. Or l'Éternel n'avait point parlé d'effacer le nom d'Israël de sous le ciel. Il les sauva par la main de Jéroboam, fils de Joas. Et puis le troisième texte, donc, en Matthieu chapitre 12, les versets 38 à 41. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent « Maître », ils s'adressaient à Jésus, « Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. » Il leur répondit « Une génération mauvaise et adultère recherche un signe. Il ne lui sera donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici qu'il y a ici plus que Jonas. » Voilà pour les textes de la prédication.
Si le Saint-Esprit arrêtait de nous guider à chaque fois que nous agissions à l'opposé de ce qu'il nous demande, eh bien nous serions perdus face à la parole de Dieu. Mais à cause de sa miséricorde, nous pouvons compter sur lui encore aujourd'hui pour nous guider dans sa parole. Et nous voulons donc lui laisser toute la place alors que nous l'étudions afin de ne pas fuir à Tarsis. Si le nom d'Abdias ou même de Joël que nous avons déjà vu dans cette série des 12 prophètes ne nous parle généralement pas beaucoup, le nom de Jonas est généralement très connu. Jonas et son poisson. En fait, je souhaiterais que nous retenions plutôt Jonas et la miséricorde de Dieu. Comme nous l'avons vu en introduction de cette série, le jour de l'Éternel est aussi présent dans ce livre. Car le jugement annoncé à Ninive est en fait une préfiguration du jour de l'Éternel. Et une clé importante à avoir en tête lorsque nous lisons les prophètes, c'est que l'annonce du jugement est en fait un appel à la repentance. Ça, c'est une clé qu'on doit avoir lorsqu'on lit les prophètes. Et Jonas le savait. Dieu lui-même le dira plus tard, d'ailleurs dans Jérémie, très clairement, en Jérémie 18, versets 7 et 8. « Tantôt je parle à propos d'une nation, d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. » C'est l'Éternel qui parle. Alors que nous apprend ce livre de Jonas avec ce récit qui souligne la souveraineté de Dieu, sa patience et sa bienveillance envers ce prophète récalcitrant et sa grâce étonnante pour ses païens? Je vais vous donner le résumé en une phrase. Jonas nous présente un récit véridique. Jonas nous présente un récit véridique rempli d'enseignements symboliques et typologiques. Qui nous parle d'un Dieu miséricordieux qui veut que nous le devenions aussi. Donc Jonas nous présente un récit véridique rempli d'enseignements symboliques et typologiques qui nous parle d'un Dieu miséricordieux qui veut que nous le devenions aussi. Alors pour le survol de ce livre, je vous propose trois directions. La première, nous cherchons à comprendre premièrement que ce récit est véridique. Le premier point simplement s'intitulera un récit historique, que nous prendrons rapidement. Deuxièmement, nous allons souligner quelques éléments d'enseignement de ce livre. Donc, le deuxième point sera un récit riche d'enseignement. Et nous terminerons par un sujet qui m'a particulièrement touché et encouragé, que je me réjouis de vous transmettre, c'est la typologie qui pointe vers Jésus-Christ. Donc le troisième point, ce sera un récit qui pointe vers Christ. Voilà le menu. Ça va ? Alors on commence avec un récit historique. Donc premièrement, on a un témoignage interne. Le livre de Jonas est un récit historique. Rien dans le livre ne nous indique explicitement que c'est une allégorie, une parabole. Quand vous lisez ce livre, c'est une histoire vraie qui vous est écrite. Vous trouverez des indications de lieux réels. Il est parlé des actions et des paroles de Dieu comme faisant partie d'une réalité vécue. Deuxièmement, le prophète Jonas a existé. Jonas est un prophète qui a réellement existé et le livre des rois nous le présente courtement dans un verset qui nous permet de situer son origine. Il a réellement existé. Le livre des rois, qui est un livre historique, nous le présente courtement dans 2 rois 14, 25. On l'a lu tout à l'heure. Je vous le relis et cherchez à voir d'où vient Jonas. Donc Jéroboam II rétablit la frontière d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la Araba. Selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai, de Gath-Hépher. Jonas, fils d'Amittai, la même chose que le livre de Jonas, on ne se trompe pas. On a donné le nom du père pour qu'on soit sûr que ce soit ce Jonas-là dont il est question. Et il vient de Gath-Hépher. Qui sait où est Gath-Hépher? Je ne savais pas non plus avant d'aller chercher, alors je vais vous le dire. Gath-Hépher se trouve à quelques kilomètres de Nazareth. Donc Jonas est un Galiléen comme Jésus. Donc quand les pharisiens ont dit qu'il n'y avait pas de prophète qui naît de Galilée, soit ils ont fait exprès d'oublier Jonas, ou soit ils se sont trompés. Ça c'est une autre histoire. La prophétie de Jonas, que l'on voit dans 2 rois 14, était en faveur du peuple d'Israël, malgré la mauvaise conduite du peuple. Et l'accomplissement de cette prophétie, en fait, a porté préjudice aux Assyriens, dont la capitale était Ninive, puisqu'en fait, ils ont repris des territoires. Et les Assyriens ont ainsi perdu du terrain. Et s'ils ont entendu la prophétie de Jonas, Jonas, pour eux, signifie donc la défaite, signifie que Dieu fait ce qu'il annonce. Et troisième élément, au niveau historique, non seulement le prophète est présenté dans le livre historique des rois, mais Jésus-Christ, homme-Dieu, la vérité même, atteste l'existence de Jonas. Donc non seulement les prophètes sont présentés dans le livre historique des rois, mais Jésus-Christ, homme-Dieu, la vérité même, atteste l'existence de Jonas. Jonas est le seul prophète avec qui Jésus s'identifie en disant « de même ». Il s'est identifié avec sept autres personnes, mais Jonas est le seul qui dit « de même, voici ce qui se passera ». On l'a lu dans Matthieu 12 tout à l'heure. Et Jésus indique trois choses qui indiquent clairement que Jonas est historique dans la manière de les rapporter. Premièrement, il dit que Jonas est un prophète qui a existé. Deuxièmement, il dit que Jonas a été dans un grand poisson. Et troisièmement, il dit que Jonas a prêché à Ninive et que les gens se sont repentis. Ce sont en fait des fait historique que Jésus, ici, donne au peuple. Et celui qui va contre l'une de ces affirmations, ben en fait, se place contre Jésus-Christ lui-même. Un troisième élément que je vais prendre en aparté, c'est la question du poisson, parce qu'elle est récurrente. Donc, j'en parle maintenant pour qu'elle nous laisse tranquille. Donc, le type de poisson n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, oubliez la baleine, hein, que l'on ne trouve pas en Méditerranée d'ailleurs. Est-ce un espèce de requin, un autre type de poisson, ou un poisson créé par Dieu exprès pour cette situation? Nous ne le savons pas. Et nous n'avons pas besoin de cette explication pour croire que Dieu est souverain sur sa création. Alors, c'est vrai que pour les sceptiques, pour les incrédules, Dieu a permis différents témoignages au cours de l'histoire qui nous indiquent qu'il est possible de se faire avaler par un poisson et survivre. Par exemple, en 1758, un matelot avait été avalé et recraché par un requin dans la Méditerranée. Ou en 1891, un homme nommé Bartley a été avalé par un gros poisson et a survécu lorsqu'il en était extrait. Mais ne laissons pas cette histoire détourner notre attention du centre du livre de Jonas. Parce que le poisson, ce n'est pas le centre du livre de Jonas, mais la miséricorde de Dieu que nous sommes appelés à saisir et à vivre. Alors je m'arrête ici pour cette question de la véracité, de l'historité du récit de Jonas. Nous venons de voir donc, premièrement, que le texte biblique nous présente ce récit comme s'étant passé. Deuxièmement, le livre des rois atteste l'existence du prophète Jonas, fils d'Amittai. Troisièmement, Jésus-Christ lui-même fait référence à Jonas comme un personnage historique. Et quatrièmement, même l'histoire incroyable du poisson sauveur qui manifeste la souveraineté de Dieu sur sa création, et souvent utilisée d'ailleurs pour ridiculiser ce livre, s'est reproduit. Faisons donc confiance à la Bible et passons à notre deuxième point qui parle de l'enseignement que Dieu veut nous donner dans ce livre. Un récit riche d'enseignements. Alors nous voyons tout le livre de Jonas en une fois. Alors vous comprendrez que nous ne pourrons pas aborder tout ce qui peut se trouver dans ce livre, qui a rempli des livres entiers, des séries de prédications. Je pourrais donc souligner que quelques pépites de ce riche trésor. Et si nous pouvons étudier le caractère humain totalement corrompu par le péché, en analysant les paroles, les actions de Jonas, et ainsi comprendre que même le plus érudit, le meilleur doctrinalement, le plus attaché au peuple de Dieu, peut être totalement à côté du cœur de Dieu. Mais j'aimerais plutôt faire ressortir quelques enseignements concernant Dieu lui-même dans ce texte. Ce livre, en fait, parle bien plus de Dieu que de Jonas. Et voici quelques aspects, non pas pour en faire le tour, mais pour vous mettre en appétit et pour vous encourager à continuer après ce dimanche de lire ce livre et de saisir encore d'autres éléments qui nous parlent de Dieu. Premièrement, je soulignerai que Dieu est saint. Dieu est saint. En fait, la méchanceté des Ninivites n'est pas sans effet. Parce que Dieu ne peut pas voir le mal sans réagir. Il est saint. Jonas ne peut pas non plus lui désobéir sans qu'il ne réagisse. En fait, cela nous indique que nous ne pouvons pas mal agir impunément devant Dieu. Nous ne pouvons pas mal agir impunément. Bon, qu'est-ce que veut dire impunément ? Impunément veut dire sans subir de punition, sans dommage pour soi, sans s'exposer à aucun risque. Nous ne pouvons pas agir sans s'exposer à la colère de Dieu devant Dieu. On ne peut pas mal agir impunément devant Dieu. Donc la question qui nous est posée, agis-tu de manière à faire réagir le Dieu saint ? Un autre enseignement est que Dieu appelle. Dieu appelle. Et son appel est sérieux. Quand Jonas fuit, Dieu envoie la tempête. Son appel est insistant. Quand Jonas dort pour fuir, le capitaine païen vient lui dire de prier Dieu. Et quand Jonas se fait euthanasier par les marins à qui il a demandé de le jeter par-dessus bord, Dieu envoie non pas un cercueil, mais un sous-marin sous la forme d'un poisson où Jonas prie. L'appel de Dieu est constant. Et quand Jonas est vomi sur terre après avoir dit à Dieu qu'il voulait lui offrir des sacrifices, Dieu lui adresse le même appel qu'au début. Cela nous indique que l'appel de Dieu est à prendre au sérieux. L'appel de Dieu est à prendre au sérieux. Et là, questions qui nous sont posées, c'est refuses-tu de répondre à l'appel de Dieu? Ou refuses-tu une mission de Dieu? Un autre enseignement sur Dieu est que Dieu entend. Dieu entend. Dieu entend les marins sur leur bateau. Dieu entend Jonas dans son poisson. Dieu entend les Ninivites qui se repentent. Dieu entend Jonas sous son ricin et sous le vent chaud. Cela nous indique que nous pouvons prier Dieu en tout lieu et à tout instant. Où que nous soyons. Nous pouvons prier Dieu à tout instant, en tout lieu et où que nous soyons. Et les questions qui peuvent ressurgir de tout cela, c'est « Pries-tu par obligation parce que tu te trouves dans une tempête ou dans une situation inextricable ? Pries-tu dès que tu entends son avertissement ? Ou pries-tu dans une relation constante avec Dieu ?» Un dernier enseignement sur Dieu que j'aimerais souligner, c'est que Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Et Jonas est sous une grâce particulière de Dieu. Ce serviteur désobéissant qui fuit, qui descend à Jaffa, qui descend dans le bateau, qui descend dans la mer, n'est pas abandonné par Dieu qui fait grâce, alors que Jonas ne le mérite pas. Les marins qui prient et adorent tous les dieux inventés se tournent vers l'Éternel qui les délivre de la tempête. Ils ne le méritaient pas. Les Ninivites sont d'une cruauté dont la description nous remplit d'horreur. Voilà pourquoi je ne vous en fais pas, d'ailleurs. Ils n'honorent pas leur Créateur et pourtant, lorsqu'ils crient à l'Éternel, il leur fait grâce, une grâce qu'ils ne méritent pas. Cela nous indique que nous pouvons venir à Dieu dans la repentance, quelle que soit notre situation. Nous pouvons venir à Dieu dans la repentance, quelle que soit notre situation. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur et viens à Dieu. Nous pourrions encore parler de la souveraineté de Dieu sur sa création, en parlant de la tempête, du dressage de poissons, de la culture de plantes, ou en fait encore de la maîtrise des vents. Nous pourrions encore parler de l'omniprésence de Dieu, que Jonas connaissait, mais qu'il fuyait. Comme nous le faisons d'ailleurs à chaque fois que nous vivons selon notre volonté et non pas celle de Dieu. C'est une fuite en fait. Et cela continue. Et je vous encourage à relire ce petit livre de 4 chapitres et vous laisser imprégner par le riche enseignement de Dieu que nous y trouvons. C'est un Dieu miséricordieux que Jonas nous présente. Un Dieu qui pardonne à celui qui se repent. Un Dieu rempli de patience qui enseigne également ce qu'il va accomplir. Et c'est ce qui nous amène à notre troisième point. Un récit qui pointe vers Christ. Ce qui m'a le plus impressionné en préparant cette prédication, c'est de voir que ce livre de Jonas pointe si clairement vers Jésus-Christ, le cœur de Dieu manifesté dans l'Évangile. Jonas est un type de Christ. Alors, être un type veut dire ici donner des traits caractéristiques de Christ. Cela ne signifie pas que tout ce que Jonas a vécu et vit caractérise Christ. Mais certains aspects le caractérisent, alors que d'autres, nous le verrons, sont plutôt l'inverse, ou nous font, quelque part, désirer un autre Jonas. Commençons par ce que Jésus lui-même souligne dans ce lien, nous l'avons vu dans Matthieu 12, 40, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se dresseront lors du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. » C'est Jésus-Christ, bien entendu. Or, lorsque Jonas a été jeté dans la mer, c'est l'abîme, hein, si vous voulez, et cela représente clairement la mort. Lorsque Jonas a été rejeté sur terre, le lieu de vie pour un homme, cela représente clairement la résurrection. Jonas est donc un type de Christ pour la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Et Jésus indique que l'histoire véridique de Jonas était en fait une annonce de sa résurrection. Concernant les Ninivites, le texte de Luc souligne un aspect important. Dans Luc 11, 30, il est dit « Car de même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. » En fait, Jonas était un signe pour les Ninivites. On pense souvent à la prédication de Jonas, mais Jésus souligne le fait que Jonas lui-même était un signe pour les Ninivites, qui étaient un homme qui était dans le séjour des morts, qui en est revenu. C'est ce revenant de l'abîme qui leur parle aux Ninivites. Jésus, qui est mort et ressuscité, est un signe. Jésus, qui est mort et ressuscité, est un signe pour tous ceux qui entendront le témoignage des disciples. D'ailleurs, la conversion massive de Pentecôte n'est-elle pas annoncée par la repentance massive des Ninivites ? Jésus, qui est mort et ressuscité, est un signe pour tous ceux qui entendront le témoignage des disciples. D'ailleurs, la conversion massive de Pentecôte n'est-elle pas annoncée par la repentance massive des Ninivites ? Et voici quelques autres liens entre Jonas et Jésus. Ils ont tous les deux reçu une mission difficile d'aller dans un lieu lointain parmi les ennemis, ceux qui sont contre eux. Les deux. Jonas et Jésus connaissent tous les deux Dieu qui s'est présenté dans Exode 34, 6. Regardez Jonas, le verset 2 du chapitre 4, la dernière partie. Regardez dans vos Bibles et pendant ce temps, je vais vous lire Exode 34, 6. Jonas 4, verset 2, deuxième partie. Maintenant, je vous lis Exode 34, 6. L'Éternel passa devant Moïse en proclamant « L'Éternel, l'Éternel Dieu, compatissant et qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité. » Jonas connaissait Dieu. Comme je le disais tout à l'heure, il était excellent théologien, il connaissait parfaitement les doctrines. Jésus-Christ aussi. Jonas connaissait la parole de Dieu. En une prédication, on n'aura pas le temps de s'arrêter sur ce chapitre 2. Mais si vous lisez la prière de Jonas, c'est une suite de citations de psaumes. Il connaît la parole. Et Jésus cite aussi très souvent la parole. Nous constatons que lorsqu'ils sont jetés dans l'abîme, la fureur s'apaise. En fait, la fureur de la mer s'apaise lorsque Jonas est jeté dans l'abîme de la mer. La fureur de la juste colère de Dieu s'apaise lorsque Jésus est jeté dans l'abîme de la croix qui le mènera à la mort. C'est pas fini, ça continue. Des païens ont cherché à les défendre, mais n'ont rien pu faire pour les sauver malgré leurs efforts. Les marins ont cherché à sauver Jonas. Pilate a cherché à sauver Jésus. Des païens ont été conduits vers Dieu lorsqu'ils ont vu la création réagir de façon nette. En fait, lorsque la fureur de la mer s'arrête, les marins sont saisis de la crainte de l'Éternel et lui offrent un sacrifice. Lorsque le centenier et ceux qui étaient avec lui voient le tremblement de terre, alors que le voile du temple est déchiré, les rochers sont fendus, les tombons sont ouverts, il est saisi d'une grande crainte et il dit... Et ils dirent avec ceux qui étaient avec lui, il était vraiment le Fils de Dieu, en parlant de Jésus. Jonas et Jésus reviennent tous les deux à la vie discrètement. En fait, les marins n'ont pas vu Jonas être recraché par le poisson. Et les spectateurs de la crucifixion n'ont pas vu Jésus sortir du tombeau. Et dernier élément, ils agissent tous les deux avec courage, étant prêts à rester fidèles à leur décision, même si cela leur coûte la mort. Ils arrivent d'ailleurs tous les deux à dormir dans un navire en pleine tempête, alors que les autres sont en train de crier au naufrage. Pour ce lien, je dois quand même faire un petit bémol, c'est que Jonas le fait par désobéissance. Donc il a décidé, il est prêt à aller jusqu'à la mort avec sa décision, alors que Jésus, sa décision était en lien avec l'obéissance pour notre salut et la confiance en Dieu. Si Jésus pouvait dormir dans une barque en tempête, c'était par confiance. Si Jonas pouvait dormir dans un bateau dans la tempête, c'était par fuite. Et justement, si Jonas nous permet de voir quelques caractéristiques que Jésus aura, il nous fait aussi languir vers celui qui est différent de Jonas. Jonas désobéit clairement et sciemment, ne voulant pas le salut des païens. Nous avions besoin d'un homme qui obéisse totalement, qui aime le monde entier. Et Jésus l'a fait par son obéissance parfaite et il prend la place de tous ceux qui invoquent son nom. Vous vous souvenez de ce texte si fort dans le livre de Joël, peut-être vous vous souvenez, Joël 3:5 ou 2:32 selon les numérotations, que Pierre reprend d'ailleurs à la Pentecôte. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Et c'est encore le cas aujourd'hui, en 2019. Deuxième élément qui nous fait languir après un autre que Jonas, c'est que Jonas se plaint de la grâce de Dieu. alors que lui-même ne subit aucune conséquence de la colère de Dieu sur les Ninivites. Jésus lui proclame et vit la grâce de Dieu, alors qu'il subit la colère de Dieu pour les pécheurs à qui il annonce le jugement. Et troisième élément, c'est que Jonas annonce son message sans émotion et dans le désir de voir la destruction. C'est son but, hein, à Ninive. En 40 jours, la ville sera détruite, bouleversée, son but c'était de la voir ainsi. Non, Jésus annonce son message avec larmes, avec le désir de voir le salut, juste sur la croix, où il demande même à son père de pardonner à ses bourreaux. Et dernier élément, Jonas cherche à fuir la présence de Dieu. Jésus la recherche à tout instant, étant prêt à passer des nuits entières dans la prière. Ce livre de Jonas pointe vers Jésus-Christ, celui qui est venu accomplir le salut d'un Dieu miséricordieux, ce Dieu qui prend patience envers Jonas et qui veut que les pires ennemis entendent l'évangile afin qu'ils puissent se détourner du mal. Ce livre de Jonas pointe vers Jésus-Christ, celui qui est venu accomplir le salut d'un Dieu miséricordieux, qui prend patience envers Jonas et qui veut que les pires ennemis entendent l'évangile afin qu'ils puissent se détourner du mal. Jésus est plus grand que Jonas et il est venu, il est ressuscité, il annonce le jugement à venir qu'il a pris sur lui pour tous ceux qui se confient en lui. Le salut est accompli. Et les Ninivites, en fait, se lèveront au jour de l'Éternel lors du jugement et témoigneront contre ceux qui ont entendu bien plus qu'une prédication très courte de, c'est combien, quelques mots, je ne sais plus le nombre de mots qu'il a utilisé, Jonas, très court. Non, ils témoigneront contre ceux qui ont entendu une prédication bien plus longue de la part de celui qui lui-même est venu payer pour notre salut. Eh bien, les Ninivites se sont repentis après une courte prédication faite par un homme qui ne voulait pas leur bien. Ils témoigneront donc contre ceux qui ne se repentent pas après de longs enseignements faits par un homme qui a donné sa vie pour ceux qui se repentent. Alors ma prière, c'est que pour aucun ici présent, les Ninivites ne témoignent contre toi lors du jugement. Et le livre de Jonas se termine par une question de Dieu à Jonas. Le livre se termine par une question non répondue. Alors en conclusion, le fait que nous ne sachions pas ce qu'est devenu Jonas, ce qu'il a fait, comment il a répondu à Dieu, nous laisse en fait à nous-mêmes. Qu'aurions-nous fait? Qu'allons-nous faire? En fait, c'est exactement la même question que la parabole des deux fils avec le père prodigue le dit. Il n'est pas dit dans le récit ce qu'a fait le frère aîné, qui jusque-là n'a pas agi selon le cœur de son père, mais qui, comme Jonas, connaissait toutes les doctrines par cœur, mais ne les appliquait pas à son cœur. Dieu manifeste la miséricorde à celui qui revient, pour celui qui l'invoque. Qu'allons-nous faire? C'est la question. Qu'allons-nous faire? Allons-nous rester dans l'attitude de Jonas, en ne désirant pas la grâce pour nos ennemis, pour ceux qui nous font du mal, en restant en retrait et en attendant le jugement de Dieu? Serons-nous comme Jonas qui oublie la grâce qu'il a reçue, qui oublie qu'il a lui-même besoin de la grâce? Ou allons-nous comprendre ce que le prophète nous enseigne concernant Dieu en nous écrivant le livre? Allons-nous imiter Dieu dans sa grâce et sa bienveillance? Serons-nous comme les Ninivites qui se repentent et bénéficient de la grâce de Dieu? En fait, la question est assez simple. Que vas-tu faire face et avec la miséricorde de Dieu? Jésus, celui qui est plus grand que Jonas, a répondu à la question laissée par Dieu. N'aurais-je pas pitié de Ninive? Voici ce que dit un commentaire, je vous le cite. Jésus donna de tout son cœur une réponse et l'écrivit de son sang. C'est sur lui que tombèrent les reproches de ceux qui, comme Jonas, accusent Dieu d'être trop miséricordieux. Lui, qui était l'incarnation d'un Dieu qui va à la recherche de la brebis égarée, qui recherche la drachme perdue, qui souhaite la bienvenue au prodigue qui se repent. Il est allé dans les abîmes les plus profonds que le désobéissant Jonas, et fut ressuscité par un Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés. Il proclama la miséricorde de ce Dieu dans toute sa plénitude, et appela à la repentance, sans laquelle cette miséricorde est vaine pour celui qui en entend parler. Donc prions l'Éternel, c'est ma prière, que la miséricorde de Dieu nous touche. Lui qui a annoncé par Jonas la glorieuse résurrection historique de Jésus-Christ, qui est d'ailleurs le fondement de notre foi, acceptons-la. Lui qui a montré par le livre de Jonas qu'il pardonne à ceux qui se repentent, ce qui est notre évangile à saisir, à vivre, eh bien transmettons cette miséricorde. Acceptons, transmettons la miséricorde de Dieu avec la reconnaissance des soins bienveillants qu'il accorde à ses enfants, comme il l'a fait pour Jonas. Nous allons prier. Éternel notre Dieu, nous te remercions pour cet écrit, ce récit historique qui s'est passé, que Jonas a eu le courage d'écrire pour nous enseigner, sans enlever des éléments qui le mettaient à mal, pour que nous puissions, Seigneur, être devant cette même question que lui-même a reçue. Donne-nous, Seigneur, de saisir ta miséricorde, d'être conscients que nous sommes comme les Ninivites qui ont besoin de ta grâce. Et nous voulons la saisir, Père, et te dire merci, parce que lorsque nous nous repentons, tu nous pardonnes, tu nous libères de ce poids de péché énorme, et tu nous donnes la grâce de nous en détourner, et de vivre dans l'obéissance à ta parole. Seigneur, nous voulons te remercier aussi parce que cette miséricorde que tu nous manifestes, eh bien nous pouvons aussi l'annoncer à d'autres. Nous n'en perdons rien lorsque nous la vivons même envers les autres. Parce que tu es ce Dieu qui nous donne bien plus que ce que nous pourrions donner. Permets que ce livre de Jonas ne s'arrête pas dans notre tête avec l'idée du poisson, mais puisse être saisi par ta miséricorde que tu désires que nous saisissions et que nous vivions. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.